ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2. C'est les voix du mag qui commencent puisque je suis accompagné de Salomé. Aujourd'hui, on va donc parler de toilettes, mais en réalité, on va parler de politique de l'eau, de modèle agricole et d'organisation des villes et de tout ce que nos sociétés choisissent de rendre invisible. À l'occasion du festival, on reçoit donc Inès, coprésidente du réseau de l'assainissement écologique. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à Canal Sud.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir, avec plaisir. Et Salomé, bonjour.
Eh bien, bonjour aussi.
Festival sur les toilettes, en fait, ça pourrait prêter à sourire, mais pas du tout, parce que pour vous, vous dites que c'est un point d'entrée stratégique des transitions socio-écologiques. Alors pourquoi ce n'est pas un sujet secondaire ?
Peut-être que tous et toutes, vous avez déjà utilisé des toilettes sèches dans un festival, un événement. Donc, ça se constitue d'un seau dans lequel on fait ses besoins et qu'on recouvre un petit peu de sueur. Et après, ce seau va être vidangé, mis en compostage ailleurs. Bon, ça, c'est le 0.0 de la toilette sèche. Mais si on veut penser un modèle différent en agriculture, sur la gestion de l'eau, face à la raréfaction aussi de l'eau, pour faire un retour au sol de la matière, pour pouvoir enrichir nos terres, pour pouvoir aussi faire un retour au sol de l'eau, ben il faut repenser tout ce modèle-là, et c'est pour ça que notre sujet, oui, c'est la toilette, mais pas que.
Et d'ailleurs, on devrait faire un espèce de gros trigger warning, hein, parce que là, on va parler matière fécale, excréments, urine.
Oui. Avec légèreté. Et
voilà, donc il faut s'y préparer quoi, pour l'émission. Quoi.
Et qu'est-ce que nos toilettes disent de notre civilisation, selon vous ?
Je vais parler de ce que je connais. Donc en France, je connais pas tous les systèmes ailleurs, mais en France, on est parti sur le tout à l'égout. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'eau seulement pour déplacer nos excréments. Il n'y a pas d'intérêt particulier à mettre de l'eau, donc de l'eau potable quand même, le rajouter. Voilà. Mais le seul intérêt à ça, c'est de diluer les matières et de les éloigner le plus possible pour éviter les odeurs, le contact. C'est comme ça qu'on a pensé les choses, mais on a pensé les choses aussi dans un moment où l'eau n'était pas une ressource en danger et que là, il faut vraiment qu'on repense un peu nos systèmes.
Le geste est banal. On tire la chasse plusieurs fois par jour sans aucune forme d'appréhension. Pourtant, à chaque fois, ce sont près de 9 litres d'eau potable qui partent aux oubliettes. Résultat, chaque année, en France, dans les foyers français, près de 20% de l'eau du robinet termine au fond de la cuvette. Alors à l'heure où l'eau pourrait venir à manquer, il y a de grands enjeux autour du petit coin. Et il est grand temps de se demander à quoi pourraient ressembler les toilettes du futur. Avant toute chose, commençons par rappeler comment l'humanité s'est retrouvée à déféquer dans les toilettes que l'on connaît. Tout a commencé avec la sédentarisation de l'homme. Dans les villages et les villes de plus en plus grands, il devenait compliqué de faire ses besoins dans la nature, car la nature était souvent le jardin du voisin. Pas étonnant donc que l'on trouve des vestiges de sanitaires vieux de 4000 ans, que ce soit dans les cités antiques du Pakistan ou au fin fond de l'Écosse. Plus tard, les Romains deviennent les spécialistes des latrines publiques reliées à un système d'égouts. Et puis, au Moyen-Âge, les choses stagnent. Les pots de chambre de la noblesse sont vidés dans les douves, tandis que le reste de la population se soulage principalement en plein air.
Voilà, il y a la partie un petit peu historique et il y a aussi un frein lié à nos imaginaires, notre imaginaire qui se situe notamment autour de ce tabou lié aux excréments. Et ça repose, j'ai l'impression, sur une construction culturelle profonde, puisque les excréments sont associés au sale, à l'intime, à ce qui doit être caché et immédiatement évacué. Et c'est vrai que cette mise à distance n'a rien d'anodin. Elle permet d'invisibiliser des processus pourtant essentiels, à savoir le devenir de nos déchets et les infrastructures qui les traitent et le travail de celles et ceux qui s'en occupent. En les rendant socialement indicibles, nos sociétés évitent aussi de questionner un système technique coûteux, énergivore et écologiquement problématique. Ce refoulement organise une forme de confort. Tant que les excréments disparaissent, on ne se demande pas où ils vont, ni ce qu'ils pourraient devenir. Donc, si on reste un petit peu sur cette notion, je dirais, tabou, pourquoi est-ce que ça dérange autant pour toi ?
Bon, surtout les matières fécales, autant l'urine ne contient pas de dangerosité particulière, mais en tout cas, les matières fécales, il y a des pathogènes à l'intérieur qui ont causé des maladies, énormément de morts. On pense au choléra, par exemple, des épidémies extrêmement graves. Donc, on a toujours associé, effectivement, le caca à quelque chose de sale qui cause de grands dangers.
Car les toilettes, héritées du XVIIIe siècle, consomment beaucoup, beaucoup d'eau. Or, dans beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup d'eau. Résultat, aujourd'hui dans le monde, une personne sur trois n'a pas accès à des toilettes dignes de ce nom. Le drame est avant tout sanitaire. De nombreuses maladies véhiculées par la matière fécale se retrouvent dans la nature et souvent dans l'eau que les gens consomment. Choléra, diarrhée, dysenterie, hépatite A, typhoïde, poliomyélite frappent des centaines de milliers de personnes. Rien que pour la diarrhée, c'est un mort toutes les deux minutes. Et le pire, c'est qu'au drame sanitaire s'ajoute le fait que le sujet reste tabou. Il est très peu mis en avant lorsqu'on parle d'humanitaire.
Mais au final, leur récupération était quelque chose de tout à fait normal jusqu'à un siècle, où il y avait des collecteurs de biodéchets, des collecteurs de matières fécales et d'urine qui les amenaient aux champs pour pouvoir amender les champs et que les plantes puissent s'en nourrir et que le sol aussi puisse s'en nourrir. Notre approche actuelle, qui est de chasser nos excréments dans des stations d'épuration qui, à grands frais, tournent pour pouvoir traiter cette matière avec des rajouts de produits aussi pour pouvoir rendre cette matière moins dangereuse, pour la remettre au final dans les cours d'eau, où on compte sur la dilution des cours d'eau. En fait, à la sortie d'une station d'épuration, il y a énormément de pathogènes encore qui sont présents, parce qu'on peut pas, on va pas non plus mettre des tonnes de Javel à l'intérieur pour tout détruire. Donc il y a quand même une dangerosité, et on compte sur la dilution des rivières pour ne pas contaminer ni l'homme ni l'animal. Et là, bon, surtout en Haute-Garonne, on est quand même particulièrement servi par le réchauffement climatique, on va se retrouver avec une eau qui sera extrêmement chargée en pathogènes et aussi en azote. Donc, pour différencier un petit peu les deux matières, dans l'urine, il y a beaucoup d'azote, il y a du phosphore et il y a du potassium, qui sont des engrais. Donc, par exemple, on pense un peu au scandale des algues vertes en Bretagne. Ouais. C'est ça, c'est que l'urine est très chargée en matière fertilisante.
Et là, on parle d'animaux, c'est ça
Oui, là, oui, les algues vertes en Bretagne, pardon, c'était l'élevage des porcin. Ouais. Et dans les matières fécales, il y a un petit peu d'azote, un petit peu, mais quand même pas grand-chose. Mais il y a surtout du carbone, donc ça peut être structurant pour le sol. Et il y a les pathogènes. Les pathogènes sont à 99% présents dans les matières fécales. On dit que l'urine est stérile, oui, c'est approximativement le cas.
Donc en fait, ce que vous dites, c'est que le tabou autour des déchets, il est à la fois un peu naturel en vrai, de la peur des maladies, et à la fois culturel.
Oui, parce que il y a encore dans les îles comme au Japon ou à Cuba par exemple, où les ressources sont très limitées parce que c'est une île, on récupère les matières et il n'y a pas de sujet. Et au contraire, par exemple, en japonais, il n'y a aucun mot négatif pour parler de la merde. Alors que nous, on en a, voilà, dire c'est caca, lui c'est une merde.
C'est une insulte, ouais.
C'est une insulte, et alors qu'il n'y a aucun mot négatif parce que en fait c'est une ressource sur laquelle on est dépendant, donc évidemment que ça sera. Enfin voilà, il n'y a pas de mot négatif à ça. Donc bien sûr, c'est une représentation culturelle, et c'est aussi une représentation culturelle de penser que l'eau nettoie. où c'est vrai que nous en France on est très, enfin voilà, dans les pays occidentaux on est très là-dessus sur l'eau qui va nettoyer, qui va purifier, mais non, l'eau on la pollue. Point, c'est tout. Il n'y a pas d'autres possibilités.
Et du coup, pourquoi certaines fonctions corporelles sont-elles aussi tabouisées, et pourquoi plus tabouisées que d'autres?
Nous, on a des sociologues donc qui travaillent sur ces sujets-là, mais effectivement tout ce qui vient un peu du corps, et après ça dépend aussi des années, mais par exemple les règles, c'est un sujet aussi. Voilà, le mucus dans le nez, enfin voilà, il y a le vomissement. Il y a quand même quelque chose un peu de dégoût de tout ce qui peut sortir de l'humain. Et ça, je ne serais pas assez experte pour vous développer plus que ça. Mais c'est un sujet, effectivement.
C'est la chose la plus commune à tous les humains. Hein. On défèque tous les jours.
Oh merde! Le titre de la nouvelle exposition du Musée de la civilisation provoque des rires chez certains, du dégoût chez d'autres. Peu importe la réaction, personne ne peut réellement être désintéressé du sujet. Au fil des siècles, la relation de l'homme avec ses propres déchets a beaucoup changé.
Jusqu'au Moyen Âge, à la Renaissance, même jusqu'à l'époque de Versailles, hein, au 18e, il était courant de parler de sel, de l'expression « comment ça va » vient le « comment ça va » à la selle. Hein, c'était cette question de la bienséance, de l'art du bien chier, comme on l'appelait à l'époque. Où on se préoccupait de l'état de santé d'une personne en la saluant. Ce geste-là cache beaucoup de complexité quant à notre rapport au corps, le fait aussi de savoir tout simplement où s'en va cette matière, est-ce qu'elle est traitée, est-ce qu'il y a un impact écologique par rapport à ça.
Si on reste un petit peu sur cette idée philosophique, est-ce que tu penses que genre le propre et le sale, on peut les considérer aussi comme des catégories, admettons, liées au pouvoir. Et à partir de là, qui déciderait de ce qui est propre ou acceptable ou pas?
Moi, une de mes premières prises de conscience par rapport à ça, c'est que quand j'ai commencé à faire de la location de toilettes sèches, on compostait ces matières en se posant 1000 questions sur est-ce qu'il faudrait qu'on ait une tenue d'astronaute pour être en contact avec cette matière? Est-ce qu'il faut qu'on utilise des gants, pas de gants? Est-ce qu'il faudrait même des lunettes pour les éclaboussures dans les yeux? À me poser un peu 1000 questions sur aussi la terre. Est-ce qu'on est en train de... est-ce qu'il faut composter sur une aire qui est étanche, bétonnée? Est-ce que si la terre, elle est assez étanche, est-ce qu'on peut composter directement dessus? Enfin, 1000 questions. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « Mais les bouts de stations d'épuration, elles vont sur les terres agricoles. » Et c'est vrai que quand même, des bouts de stations d'épuration, dedans, il y a bien sûr les eaux de lavage, mais il y a aussi des lingettes, les tampons qui sont triés par des grilles, mais tu as toujours des microplastiques qui vont se retrouver là. On est en train d'essayer de mettre un peu aux normes, mais pendant très longtemps, il y avait aussi les eaux de rue. Donc ça veut dire des eaux avec du plomb, liées au freinage des voitures, liées avec aussi des microplastiques.
Oui, parce la rue, c'est les égouts, c'est ça de...
Alors maintenant, il y a une interdiction. Maintenant, il faut avoir deux réseaux différents, mais il y a plein de villes qui ne sont pas encore aux normes là-dessus. Et pendant en tout cas très longtemps, la facilité, c'était on fait la rigole, et où est-ce qu'on l'évacue? Directement dans le tout à l'égout, puisqu'il existe déjà. Donc c'est encore le cas, je ne sais pas... Enfin voilà, il y a une mise aux normes qui est en train d'être faite, mais en tout cas pendant très longtemps c'était le cas, et il y aura toujours une petite partie de ces eaux-là qui continueront à aller au tout à l'égout. Donc c'est des eaux qui sont quand même, enfin c'est des boues qui sont très chargées en micropolluants qui vont rester là à vie, quoi. Et de se dire ça, là je fais un peu un parallèle aussi avec les biodéchets, quoi, où on est là en train de se prendre la tête, j'y avais un sac plastique, mais c'est des sacs plastiques compostables, mais il y a quand même des microplastiques dedans. Mais en vrai, il y a les bouts, les fins de méthaniseurs biodéchets, dedans il y a du plastique, il y a des emballages, il y a cette présence là qu'on va remettre à la terre, et oui, on pollue la terre aussi d'une autre façon, quoi. Donc oui, ce qui est acceptable ou pas acceptable, ça change tout le temps. Là, je voulais aussi parler par exemple du caldium, où on est en train d'en parler de plus en plus, c'est que pour fabriquer des engrais, c'est ça, et c'est éternel. Et pour fabriquer des engrais chimiques, on va aller l'exporter d'autres pays. Et donc, par exemple, dans le Sahara occidental, on va exporter du phosphore. Et ce phosphore est rempli de calcium qu'on va remettre à la terre et que la plante va ingérer et que nous-mêmes allons nous nourrir. Et voilà, et ça, ça nous semble tout à fait logique et on ne voit pas d'autre issue à ça, alors qu'en fait, on est en train de, ouais, de polluer durablement les sols et de se polluer aussi nous-mêmes.
Vous avez l'impression de bien manger parce que vous vous nourrissez essentiellement de légumes. Eh bien, détrompez-vous, car il se pourrait que vous soyez infecté au cadmium. Le cadmium, c'est un scandale sanitaire dont on entend énormément parler en ce moment, et pour cause, l'ANSES vient de rendre un rapport tout à fait accablant pour le gouvernement. Le cadmium est suspecté de provoquer des maladies graves, comme des cancers, et surtout des cancers du rein, et d'être aussi un énorme perturbateur endocrinien. En gros, une plante a besoin de phosphate. Ça lui permet de mieux pousser et de grandir rapidement. Donc on va aller chercher ce phosphate, et en creusant par là même, on va donc récupérer des particules de cadmium. Et donc, quand ils vont épandre les engrais minéraux phosphatés dans les champs de culture agricole, on va remplir ces champs de cadmium. Et c'est comme ça qu'on passe ensuite du champ à votre assiette. D'ailleurs, c'est un problème spécifiquement français, c'est ce que révèle l'étude, parce que nous serions 3 à 4 fois plus exposés que les autres pays européens. L'ANSES donne plusieurs explications, mais la plus importante, c'est que la majorité des engrais phosphatés qui sont utilisés en France proviennent de roches phosphatées du Maroc, de l'Algérie et de l'Égypte. Et en fait, leurs sols sont naturellement beaucoup plus condensés en cadmium que le reste du monde. Mais ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, on pourrait traiter ces engrais phosphatés avant de les appliquer sur les cultures afin de réduire le cadmium. Ça se fait ailleurs dans le monde. Mais encore une fois, pour des histoires de coûts, eh bien les industriels rechignent et l'État bloque tout.
Donc, selon vous, il faudrait trouver une solution assez rapide. Et est-ce que le blocage aujourd'hui, il vient plutôt des mentalités ou plutôt des infrastructures?
On essaye d'avoir de plus en plus d'exemples qui sont pérennes, qui fonctionnent. En France, on a par exemple Dol de Bretagne, qui est un immeuble entier aménagé avec des toilettes sèches. Et donc, plus on renouvelle ce genre d'équipement, il y a une école à Paris, lors de notre festival aussi, il y aura le collège d'Andaï qui sera présent. Mais il faut absolument qu'on élève un peu des lieux pour pouvoir changer les mentalités et s'adapter aussi aux mentalités. C'est qu'on ne peut pas convaincre tout le monde si on ne s'adapte pas au modèle de pensée. Par exemple, il y a des gens où ça leur est, en tant que loueuse de toilettes sèches, j'ai pu voir des gens où ça leur est très compliqué d'être en contact visuel avec les excréments d'une autre personne. Ben ça, faut le penser aussi, mais en fait, il existe des infrastructures où tu n'es pas en contact visuel avec des composteurs bien étanches, où il fait sombre à l'intérieur, ou avec des systèmes de séparation aussi, où il n'y a pas de contact direct. Il faut avancer, mais c'est sûr qu'il faut pas avancer sans les gens, et il faut plutôt essayer de convaincre le maximum de personnes par des outils et des objets qui sont acceptables socialement, quoi.
Attention, derrière cette porte se cache une invention révolutionnaire. Les premières toilettes sèches d'appartement. Nous sommes ici à Dol de Bretagne, en Bretagne donc, où se trouve le premier immeuble de France avec des toilettes sans eau.
Elles sont très jolies, c'est un modèle français. Quand on appuie sur l'interrupteur, ça met en marche le tapis roulant qui va faire tomber les matières ici dans le coffre.
Vous ressentez une différence par rapport aux toilettes normales ?
Oui, ça fait plus plouf.
Le caisson qui reçoit les matières, d'une part, est fermé par un couvercle. Il est relié à la ventilation mécanique. Cette ventilation permet d'assécher les matières et de faire partir aussi les odeurs.
Grâce au système de VMC, on a zéro odeur. La personne qui va venir collecter, il ne faut pas qu'elle ait un lien avec l'intimité de la personne. Donc on a vraiment créé tout un protocole pour bien démontrer que le bac, le caisson, il est étanche et qu'on ne va pas voir les fesses de la personne.
Ici, du coup, on aperçoit le tuyau qui emmène les urines dans le circuit de recueil des urines. Les urines seront parties par gravité, puisque le tapis est incliné vers l'avant, alors que les matières solides restent sur le tapis et sont envoyées derrière. Voilà.
Ici, il n'y a pas de tout à l'égout. L'urine va directement dans des grandes cuves situées sous la résidence.
De l'urine.
Alors l'urine, ça sera traité comme le lisier, c'est-à-dire épandu. Les matières fécales issues de nos logements sont utilisées sur des cultures
pas directement alimentaire. On va mettre ça sur des cultures qui elles-mêmes sont destinées aux animaux. Avec une eau qui, ici à Dole de Bretagne, a baissé un petit peu, c'était 6 euros du mètre cube. Ça va de nouveau monter et ça va monter partout en France. On aurait une économie d'environ 80 euros par an, par personne. C'est une chose que les habitants d'ici ont petit à petit assez bien intégré, alors qu'ils n'étaient pas du tout spécialistes au départ. C'est pas une bande d'écolos hein, qui sont qui habitent là.
Parce qu'au fond, vous êtes tout comme toi. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et moi. Et comme toi, et comme moi, vous faites tout.